BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, il est 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, on le sentait venir, ben voilà, c'est officiel, le patron de la SNCF sera débarqué après la fin des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il fait les frais de l'accord conclu en interne sur les fins de carrière? On va voir ça bien sûr dans un instant avec Jean-Baptiste Huet. Sinon, la visite de Xi Jinping en France s'est terminée. Elle s'est terminée par un déjeuner en altitude, même si ça n'a pas permis d'apaiser tous les différends entre les deux parties. On parlera tout ça bien sûr avec nos experts qui arrivent dès 18h30 sur BFM Business. Auparavant, deux invités au micro d'Edwige Chevrillon, l'économiste David Bavret, spécialiste de la Chine, pour parler bien sûr du passage de Xi Jinping en France, et puis le patron de Bouygues Télécom, Benoît Tortolin. Bouygues Télécom qui a présenté ce matin ses résultats trimestriels. Voilà le programme non exhaustif, on est ensemble jusqu'à 20h bien sûr, bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc c'est la grande question ce soir, le patron de la SNCF fait-il les frais de cet accord conclu récemment en interne, vous savez, sur les fins de carrière? Jean-Pierre Farandou, en tout cas c'est officiel, sera remplacé après les Jeux Olympiques. Il se trouve qu'il était auditionné tout à l'heure au Sénat et il a dit clairement, il l'a répété, cet accord n'a absolument rien de scandaleux. Écoutez.
C'est un bon accord qui ne contourne pas la loi sur les retraites, qui est dans les pratiques des grandes entreprises publiques et privées. Son coût est raisonnable, avec de vrais bénéfices pour l'entreprise. Il ne coûtera rien, ni aux contribuables, ni aux clients, ni aux caisses de retraite. Il existait depuis 2008 et sa renégociation a été initiée à la demande des pouvoirs publics et conduite en responsabilité et en transparence. Je m'engage devant vous à compenser le coût, sans le répercuter bien sûr sur le prix des billets, et à préserver les marges de l'entreprise.
Voilà Jean-Pierre Farandou à quelques instants devant le Sénat. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir Guillaume.
Il l'a un peu en travers de la gorge parce qu'on sent qu'il l'a vraiment défendu ardemment son accord là, Jean-Pierre.
Il s'est défendu bec et ongle devant les sénateurs. C'est bien le gouvernement, c'est Matignon. C'est Matignon qui m'a demandé de négocier cet accord en fin de carrière. J'ai des membres de l'État qui sont au conseil d'administration, a dit Jean-Pierre Farandou. Je ne comprends pas ses opacités. Cet accord, il va coûter à la SNCF 35 millions d'euros et en fait, dit Jean-Pierre Farandou, c'est une goutte d'eau. Moi, j'ai un résultat net d'1,3 milliard. J'ai tout à fait les moyens de financer ça. Jean-Pierre Farandou, on a profité évidemment pour défendre son bilan, puisqu'il avait appris deux heures avant qu'il était éconduit, qu'il ne retournerait pas qu'il ne serait pas le futur PDG de la SNCF. Donc, bilan bon, traversée de la crise Covid, dialogue social apaisé, trois exercices successifs dans le vert, donc 1,3 milliard de résultat net, 2,5 milliards de cash flow libre, du nouveau matériel, la rénovation du réseau qui se poursuit. Et d'ailleurs, son bilan, c'était presque surréaliste, a été très largement salué par les sénateurs, qui lui ont vraiment tressé des lauriers et qui ont largement critiqué sa non-reconduction. Des sénateurs qui ont parlé de brutalité gouvernementale, de véritable camouflet. Vous en avez certains qui ont étrillé Bruno Le Maire. Venez au Sénat, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge, dit un des sénateurs à Jean-Pierre Farandou. C'est vrai que Jean-Pierre Farandou va avoir 67 ans, et la limite d'âge est fixée à 68 ans. Et il y a quelques minutes, c'était Bruno Le Maire qui était auditionné, cette fois-ci, devant les députés, je vais y arriver, merci. Et que nous dit Bruno Le Maire? Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit la semaine dernière. Il s'en expliquera dans mon bureau, mais ça n'enlève rien à la qualité de son travail. C'est une question de limite d'âge. Le gouvernement est reconnaissant. Ne mélangeons pas tout.
Bon, voilà, donc Jean-Pierre Farandou qui sera remplacé par qui on ne sait pas encore, bien sûr, après la fin des Jeux Olympiques, donc dans quelques mois. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et puis on parle de tout ça, bien sûr, jusqu'à 20h avec nos experts sur BFM Business. Sinon, c'est Apple qui fait l'actualité ce soir. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Oui, parce qu'Apple vient de répondre à ceux qu'il trouvait trop discrets sur l'intelligence artificielle. Apple vient de présenter sa nouvelle puce conçue pour équiper ses nouveaux matériels. Est-ce que ce qui a été présenté va suffire à rattraper Microsoft, Google, Samsung et compagnie, Frédéric?
Alors, c'est présenté au milieu de tout un ensemble d'offres. C'est pas l'annonce Apple. N'oublions pas mais là, Apple, que rappelle Apple? Apple dit, n'oubliez pas, je suis avant tout un constructeur. Il le rappelle à l'occasion de cette conférence qui était donnée surtout pour présenter tous les nouveaux iPads, les iPad Pro qui n'avaient pas été changés depuis 2018, les nouveaux iPads qui n'avaient pas été changés depuis 2022. Donc, il y a plein d'innovations dans tous les sens. Et puis donc, il nous a dit, certains d'entre eux vont être équipés de cette nouvelle puce M4. tout le monde était un peu surpris parce qu'on pensait qu'elle allait plutôt être destinée aux iMac notamment, et puis non, mais elle arrive. Donc Apple s'engage sur le matériel, donc c'est une puce qui a priori est deux fois plus puissante que la puce précédente, elle consomme deux fois moins d'énergie, et surtout elle a dans son cœur des GPU, vous savez, ces fameux processeurs qui sont dédiés à l'intelligence artificielle générative. Donc elle va pouvoir accueillir des requêtes d'intelligence générative. Elle est designée par ARM, elle va être produite par TSMC sur du 3 nanomètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être extrêmement fine aussi. Donc là, Apple est en train de préparer le terrain. On sait qu'il y a sa prochaine conférence, on en parlera dans Tech & Co, la WWDC, c'est le 10 juin, où là, Apple doit présenter son nouvel iOS, le nouvel système qui équipe tous ses équipements mobiles. Et peut-être là, on verra quelques prémices de cette IA générative. En tout cas, voilà, Apple commence à donner un peu de la voix sur l'IA générative.
C'était une mise en bouche, donc on va dire ça quelque part.
Exactement.
Merci beaucoup Frédéric Simotel. On parle de tout ça avec vous, avec François Soral, bien sûr, Tech & Co à 20h sur BFM Business. Pendant ce temps, Xi Jinping, lui, vient d'achever sa visite en France. Ça s'est terminé par un déjeuner en altitude dans les Hautes-Pyrénées. Ça n'a pas permis de régler tous les différends entre les deux parties, mais il y a quand même eu une bonne nouvelle pour la filière porcine française. L'accord sur lequel elle travaillait depuis des mois a été signé, et ça va vraiment lui offrir de très très grands débouchés. Pauline Tadevin nous raconte ça.
À l'échelle de la totalité des exportations françaises, c'est une petite part, mais pour la filière porcine, c'est très important. Jusqu'ici, elle envoyait pour 260 millions d'euros de produits par an vers la Chine, qui est son premier marché à l'export. Elle exportait par exemple déjà des pieds ou des oreilles de porc. En tout, chaque année, plusieurs dizaines de milliers de tonnes de morceaux dont les Chinois sont friands. On exporte là-bas des produits qu'on consomme peu en Europe, explique une dirigeante de la filière qui représente 130 000 emplois direct et indirect en France. L'accord signé ce mardi à l'Élysée va permettre d'augmenter ses exportations de 10% en mettant en plus dans les containers qui partent vers la Chine des abats blancs qui sont valorisés en France sous forme d'andouilles et d'andouillettes, d'après l'interprofession Inapor, qui précise que les Chinois les consomment dans des recettes originales. On va exporter plus de charcuterie, résume une dirigeante du secteur qui estime qu'une fois l'accord signé, cela peut se mettre en place relativement rapidement, d'ici la fin de cette année.
Pauline Tadevin, bonne nouvelle pour EDF. L'autorité de sûreté nucléaire a donné tout à l'heure son feu vert pour la mise en service du futur EPR de Flamanville, le fameux. C'est une étape importante, le lancement progressif de cet EPR est censé débuter dans le courant de l'été, avec déjà 12 ans de retard. Ça ne s'arrange pas par contre pour Boeing. On a appris tout à l'heure que l'autorité américaine de régulation aérienne allait ouvrir une enquête pour déterminer si le groupe avait bien effectué et s'il avait effectué correctement des inspections requises sur ces fameux 787. On parle du fameux Dreamliner. Et puis, bonne nouvelle pour Natixis. L'amende qui lui avait été infligée par la justice pour sa communication de crise pendant l'affaire des subprimes, cette amende a été réduite. La Cour d'appel de Paris l'a ramenée de 7,5 millions d'euros à 2 millions simplement. 18h07, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Étienne Brack depuis Euronext à La Défense. Bonsoir Étienne, on termine dans le vert ce soir à la Bourse de Paris.
Bonsoir. En effet, un CAC 40 qui est au-delà des 8000 points, qui est sur des plus hauts d'une semaine à 8075 points. C'est une hausse de 1%. Secteur des spiritueux, Pernod Ricard, Rémy Cointreau qui est à la fête avec la déclaration hier d'Emmanuel Macron concernant la Chine qui ne devrait pas imposer de taxes douanières sur le cognac. Donc suite à cela, vous avez ce secteur qui est bien orienté. Vous avez également le secteur des semi-conducteurs avec Infineon qui réduit ses coûts et qui revoit un petit peu à la hausse sa profitabilité pour cette année. Ça profite à STM qui gagne quasiment 3% à 38,32€. Et puis à l'inverse, la plus forte baisse du CAC 40 ce soir, c'est Bouygues. Alors dans un instant, vous avez parlé des activités télécom qui sont au-dessus des attentes, mais dans la partie construction, dans la partie immobilière, c'est plus compliqué que prévu. Et donc suite à cela, le titre a reculé de plus de 5% en séance avant finalement de limiter ses pertes dans la journée. 34,80€ pour ce titre Bouygues, le tout donc dans une tendance haussière. Troisième séance dans le vert pour la Bourse de Paris, au-delà des 8000 points à 8075 points.
Merci beaucoup Étienne. On regarde ce qui se passe du côté de Wall Street. On est à la mi-séance, bien sûr. Le Dow Jones grappille 0,15%, 38 909 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,2%, 16 389. Tout ça à la mi-séance. 18h09, deux invités effectivement au micro d'Edwige Chevrillon. D'ici 18h30, l'économiste spécialiste de l'Asie, David Bavrez. Et effectivement, le PDG de Bouygues Télécom, Benoît Tortolin. C'est la grande interview. Très bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, les grandes interviews, actualité oblige, dans un instant avec mon invité David Bavresse qui est investisseur et essayiste qui habite Hong Kong depuis des années. On parlera de la visite de Xi Jinping, une visite assez courte, quel bilan peut-on en tirer? Et David Bavresse qui publie « Bienvenue en économie de guerre », est-ce que la France et l'Europe ont compris cela? Et puis ensuite c'est le patron de Bouygues Télécom, Benoît Tortolin, qui sera avec nous, Bouygues Télécom qui a publié ses résultats aujourd'hui. Intéressant de voir l'évolution sur le mobile, les entreprises. Et est-ce que finalement, cette inflation qui nous pourrit la vie quand même, un petit peu moins maintenant, il est vrai, depuis plusieurs mois, quel impact ça a sur les télécoms? Bonsoir David Bavresse.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Je le disais, vous publiez « Bienvenue en économie de guerre ». Vous avez une phrase en exergue que j'ai trouvée très belle de Paul Valéry, où vous dites « Il faut savoir se réveiller ». La phrase exacte, c'est...
La meilleure manière de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller.
Voilà, c'est de se réveiller. Oui, j'ai adoré cette phrase, surtout celle, évidemment, on peut complètement, peut-être, l'appliquer
à l'Europe,
à la France et à l'Europe. Le bilan de cette visite, assez rapide, bref, il y a eu quoi? Un dîner, puis là, il y a une virée personnelle au col de Tourmalet, où du reste, où il neige, il y a une tempête de neige, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les relations sont décidément froides entre la Chine et la France, entre Xi Jinping et Macron.
Non, c'est très cordial du côté grâce aux Chinois.
Cordial, je pense, vous avez vu les images.
Si on était dans le sud-ouest, on dirait Xi Jinping a eu le cassoulet et l'argent du cassoulet. Puisqu'en fait, c'est une visite où il ne s'est rien passé et donc il repart. Il a maintenu ses 300 milliards de surplus commercial avec l'Europe et il continue à piller la Russie de ses hydrocarbures pour à vil prix. Donc en fait, lui, ça lui va très bien.
Oui, mais en fait, il ne s'est rien passé. Je sais bien qu'on fêtait le 60e anniversaire de la reconnaissance par le général de Gaulle de la République populaire de Chine. Ok, donc il fallait qu'il passe par Paris. Il aurait pu, donner un petit peu plus de mal. Pourquoi rien? Le bilan, il est nul.
Eh bien, parce qu'ils vivent tous les deux dans des économies différentes. Le président Xi vit depuis 12 ans dans une économie de guerre, et le président Macron continue à vivre en économie de paix, même s'il nous parle d'économie de guerre depuis 2 ans.
Bah oui, parce que nous, on est en économie de guerre. Enfin, depuis la Covid, on peut dire que quand même... Enfin, si, non, enfin, je ne sais pas, c'est ce qu'il nous dit.
Non. L'économie de guerre, c'est... Quelle est la différence? D'abord, est-ce qu'on peut définir l'économie de guerre? C'est quand on est en paix, ce qu'on a connu pendant 30 ans avant la rupture de 2022, l'économie de paix, c'est que l'économie est tirée par la demande et le consommateur. L'économie de guerre, vous êtes tiré par la production. Donc, nos grands-mères, entre 40 et 44, elles vont chez Beurre au Fromage. Elles sont pas clientes. Elles achètent du topinambour parce qu'elles sont obligées, parce qu'il n'y a que du topinambour. Et celui qui prospère, c'est le producteur de topinambour.
D'accord.
Le producteur de topinambour aujourd'hui, donc, c'est la Chine.
Oui, mais la Chine est venue nous faire la démonstration de ce que c'était l'économie de guerre.
Absolument.
Parce que le professeur Xi Jinping est venu donner des leçons aux Européens.
Alors,
aux Français.
J'espère que le président Macron a compris la leçon. Parce que, en gros, quand on dit aux Chinois on va vous taxer la voiture électrique, le président Xi, je vais te couper le solaire. Et sans industrie solaire que je contrôle à 75 à 90%,
oui, plus, oui.
Tu ne pourras jamais avoir la neutralité carbone. Et donc, la Chine, depuis 12 ans, est l'atelier du monde, c'est 30% de la production mondiale et 60% de la capacité de production mondiale.
Oui, mais dans quelle attitude est la Chine aujourd'hui? Comme vous connaissez très bien David Bavresse, pour ça je me permets d'insister, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un repli sur le marché intérieur pour un développement du marché intérieur parce qu'il y avait un problème là aussi de pouvoir d'achat des classes moyennes. Et puis il y a quand même eu cette volonté politique de resserrer et avec tous ces milliardaires chinois qui ont été...
Cette
expression.
Nous nous trompons dans l'analyse. Nous regardons le PNB chinois qui est un critère de réussite en économie de paix. Le président Xi regarde les dépendances qui est le critère de réussite en économie de guerre. Donc, ce que nous ne réalisons pas, c'est que la Chine gagne en économie de guerre, même si elle perd en économie de paix. Donc, ce qui importe au président Xi, c'est de venir en Europe qu'il a brillamment divisé, puisque le chancelier Scholz était chez lui il y a 10 jours, et c'est nous, l'Europe, qui sommes dépendants de la Chine, alors que la Chine est en fait dépendante de l'Europe parce que nous sommes son premier client. Vous comprenez, nous sommes le premier client de la Chine, donc en économie de paix, nous devrions avoir un rapport de force en notre faveur, et en fait la Chine nous transporte en économie de guerre où elle dit « parce que je produis »,
C'est moi qui dicte les règles. Et donc, dans les conversations d'hier, c'est le président Xi qui a dicté les règles, ça n'est pas le président Macron.
Parce que là, il y a 5 accords qui ont été signés sur le porc, la volaille, un avec Suez.
Ça n'est pas le sujet.
C'est rien. Oui, c'est ça. Oui.
Donc, tout
l'enjeu... Mais en fait, moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est
tout l'enjeu, c'est qu'il
ne fait aucun effort.
Mais pourquoi ferait-il ? Il fait un effort. Il a les situations, il a la situation en main. Donc, c'est... il a compris, ça fait 12 ans qu'il travaille, à avoir... ce rapport de dépendance est en sa faveur. Donc nous, ce que nous devons faire, c'est que nous devons transformer ces dépendances en interdépendances. Et ça s'applique à tous les patrons que vous allez recevoir. Tous les patrons que vous allez recevoir à partir de demain, vous allez leur demander, et tous ceux qui nous écoutent, as-tu rédigé pour ton conseil d'administration un rapport d'interdépendance ? C'est-à-dire que il n'y a pas de souveraineté, ça n'existe pas quand on est patron d'entreprise. Il y a des dépendances à des clients, à des fournisseurs. Ce que vous devez faire aujourd'hui en économie de guerre, c'est pas la guerre, hein, c'est l'économie de guerre, c'est transformer ces dépendances en interdépendance, soit parce que vous trouvez des alternatives, soit parce que si je suis dépendante de vous et que vous commencez à m'embêter, je vais vous embêter encore plus. Donc, c'est ça, et c'est pour ça que...
Alors, vous êtes nommé ministre de l'Industrie au commissaire européen, David Bavret. Vous faites quoi ?
Alors, ma première...
Quelle attitude, voilà, quelle est votre réaction par rapport aux Chinois, aux voitures électriques, aux photovoltaïques, à l'éolien, etc.
Non, ma première action, elle est pour les Européens. Je dis, l'ESG est mort, vive l'ESG.
Donc, ça veut dire quoi ?
Eh bien, ça veut dire que... ce qui nous a tués, ce qui nous empêche de produire, c'est ce que j'appelle les ayatollahs de l'ESG. C'est la CSRD qui sort. CSRD. 1200 indices dont tout le monde se fout, non financiers, qui ne font qu'enrichir les cabinets de conseil et qui empêchent nos patrons de produire. Le nouvel ESG, c'est énergie, sécurité, guerre. L'économie de guerre, c'est pas 2% du PNB, comme nous le dit le président de la République. C'est pas l'affaire de la famille Dassault. C'est 100% de l'économie, qui c'est l'affaire des gouvernements, c'est l'affaire des entreprises et c'est l'affaire des citoyens.
Est-ce qu'on peut dire que, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, mais c'était presque, vous en servez sur l'intelligence artificielle, mais je l'ai prise, l'économie, le jeu de Go chinois, de la Chine en fait, par rapport à, est-ce qu'ils sont en train petit à petit de nous encercler, c'est ça que vous diriez, oui.
C'est tout le but de créer des dépendances, et donc ces dépendances, nous les avons pas vues. Souvenez-vous des masques, vous souvenez, mars 2020...
Oui, mais je croyais qu'on avait compris la leçon, c'est pour ça que je...
Ah ben non.
Ben si.
Ah ben non, on n'a pas compris, parce que vous voyez bien que tous les jours, nos patrons, les patrons que vous rencontrez, n'arrivent pas à produire. Mmh. Et c'est ça, notre problème.
Ouais. Donc, vous faites quoi ? Donc, vous changez l'ESG, vous gardez les initiales, vous supprimez
les
gouvernements, les critères climat sur la CRS.
Les gouvernements politiques de l'offre.
Oui.
Et on arrête le soutien artificiel à la demande, on arrête de subventionner des inactifs qui gagnent plus d'argent en moyenne que les actifs en France. Ça, c'est terminé. Deuxièmement, les sociétés, je vous ai dit, déclaration d'interdépendance. Une dépendance doit devenir une interdépendance. Mmh. Troisièmement, l'énergie. Souvenez-vous, nos parents, en 73-75, ils ont perdu leur style de vie à cause de l'énergie. Nous, cette transition énergétique, le problème qu'on a, c'est que c'est la première fois qu'on a une nouvelle énergie qui est moins efficiente que la précédente. Donc il nous faut, de même que nos parents ont perdu leur style de vie en, vous savez, la fin des 30 glorieuses, là c'est la fin des 30 glandeuses. On se remet au travail et on se remet à produire.
Juste là, on est dans la stratégie du jeu de go et de pouvoir. Est-ce que c'était une erreur de faire venir Ursula von der Leyen, sachant que Olaf Scholz, paraît-il, avait été invité, mais n'a pas voulu venir, n'a pas souhaité venir. Il faut dire que les relations avec l'Allemagne, de l'Allemagne et la Chine sont un peu particulières. C'est un peu leur zone privilégiée. Est-ce que c'était une erreur de faire venir Ursula von der Leyen ?
C'est une erreur culturel, c'est-à-dire que si vous êtes aux États-Unis, c'est la stratégie bad cop, good cop, donc le mauvais flic et le bon flic, le gentil et le méchant. Quand vous êtes aux États-Unis et que vous avez une négo, vous faites ça et le gentil, vous demandez au méchant de sortir 30 secondes et le gentil dit on signe tout de suite parce qu'autrement le méchant va revenir.
Ouais.
Les Chinois, c'est l'inverse. Culturellement, les Chinois respectent le fort, le dur et méprisent le faible, le gentil.
Et là, donc, le faible gentil, c'était qui? C'était Macron?
Le gentil, c'était malheureusement monsieur le président Macron, puisque aujourd'hui, il y a une relation spéciale visiblement sous la pluie. Et c'est madame von der Leyen qui a été très dure et qui, du coup, sera respectée par les Chinois.
Il faut dire qu'il n'avait pas du tout respecté lors de. D'après, on se souvient quand même des images un peu incroyables lorsqu'elle avait été reçue, entre guillemets, par le président chinois. Donc là, c'était le.
C'était surtout le président turc qui avait
manqué. Oui, ça aussi, l'histoire de la chaise, oui.
Et vous voyez, c'est typique d'une erreur culturelle.
Ouais.
On n'était pas aux États-Unis, on discutait avec la Chine. Donc il faut qu'on apprenne à mieux connaître la Chine.
Et bien, pour ça, moi j'ai une bonne solution. Mesdames et messieurs, lisez Bienvenue en économie de guerre aux éditions Novice et donc écrit par David Bavret. Merci beaucoup. David
Bavret,
vous repartez à Hong Kong, là, ensuite.
Oui.
Eh bien, à la prochaine. On verra si vous avez raison, si les principes que vous développez dans votre livre, s'ils marchent, si ça marche, on espère en tous les cas. Merci beaucoup.
Grand merci.
Tout de suite, les télécoms avec le patron de Bouygues Télécom.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Bonsoir Benoît Tortelin.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Bonjour, bonsoir. Quand vous voulez, ici fait nuit, c'est pour ça qu'on dit bonsoir. Président de Bouygues Télécom, vous avez publié aujourd'hui vos résultats, comme l'ensemble du groupe Bouygues, du reste pour le premier trimestre. Donc là, on va rester sur les télécoms. On parlait à l'instant de la question du pouvoir d'achat. Est-ce que, pour vous, l'inflation, est-ce que ça a un peu bousculé votre stratégie des télécoms chez Bouygues Télécom?
Alors, l'inflation, on l'a subi comme toutes les entreprises depuis 2 ans.
Oui.
Premièrement, ça a eu un impact sur
nos coûts. Oui, puis vos clients surtout la subissent, oui.
Premièrement, sur les coûts. Donc, on a travaillé sur les coûts pour néanmoins pouvoir continuer à délivrer notre stratégie de qualité au bon prix. Et les clients, comme vous le dites, sont impactés par cela. On le voit dans le comportement des clients. Avec 2 types de clients. Les clients particuliers, effectivement, le pouvoir d'achat pèse. Et on voit des clients qui vont optimiser leurs offres. Et donc, nous, on doit s'adapter également pour proposer des offres pour tous les budgets. C'est ce que l'on fait. On a à nouveau revu toutes nos offres la semaine dernière.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous pose la question.
Avoir des offres pour tous les budgets et s'adapter à cette tension de pouvoir d'achat. A priori, ça fonctionne puisque, vous l'avez dit, les résultats qu'on a présentés ce matin marquent une bonne croissance de Bouygues Télécom. On a une croissance de chiffre d'affaires facturé aux clients de 5%. Donc, c'est plutôt le résultat d'une bonne stratégie.
Oui, mais en même temps, on avait Free aussi. Free qui a présenté sa box. Ça fait qu'il a baissé ses prix aussi. Donc, on voit que.
Il y a une forte compétition sur notre marché.
Oui.
Toujours. On s'adapte.
Toujours et encore.
Nous, une stratégie simple et constante depuis des années, c'est investir dans la qualité de service. On pense que ce qu'on doit apporter avant tout à nos clients, c'est une excellente qualité de service sur la connectivité et à des prix très compétitifs. Et si je parle des clients entreprises, vous parlez de l'impact de l'inflation, là également, on a des clients entreprises qui sont touchés par l'inflation. Et là, c'est une opportunité pour Bouygues Télécom parce que dans le domaine entreprise, on apporte aussi des offres en mobile depuis très longtemps et de plus en plus dans la fibre. Et là, les entreprises, elles cherchent à revoir leurs coûts.
Oui, mais vous êtes tous sur la fibre.
Elles peuvent revoir leurs coûts sur la fibre.
Il y a SFR, il y a Orange. Et même Free se met sur la.
Mais Bouygues Télécom est un bon challenger dans le domaine de la fibre entreprise, dans le domaine de l'entreprise. Nous, on peut venir avec des solutions de très haute qualité.
Là,
on a un réseau fibre national et à des prix très compétitifs. Et moi, j'invite les entreprises à effectivement re-challenger leurs fournisseurs historiques sur la fibre, car on peut leur proposer de nouvelles solutions et les aider contre l'inflation.
Ok, on arrête la pub peut-être là. Moindre croissance, cela dit, sur le mobile. En tous les cas, c'est ce qu'on a vu sur vos chiffres, puisque 17 000 nouveaux abonnés mobiles, 38 000 sur les box. Mais grosso modo, c'est beaucoup moins que l'année dernière. Enfin, c'est moins que l'année dernière.
Alors, ce qu'on voit, c'est que le marché mobile, globalement, est en moindre croissance que l'année dernière, lié à la tension justement sur l'inflation. Au global, le marché français, en termes de nombre d'abonnements, est en moindre croissance. Et dans cette moindre croissance, nous, on prend une part de croissance qui est tout à fait raisonnable. 17 000 clients, l'année dernière, on en a pris plus de 250 000. Donc, on poursuit notre stratégie consistant à amener de la qualité et puis finalement à avoir des clients sur le mobile et sur le fixe. Par contre, vous aurez noté que sur le fixe, on a une croissance très soutenue. Là également, c'est un bon résultat. Grâce à la qualité qu'on délivre sur le fixe et sur la fibre.
Et pourquoi cette moindre croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre? Comment vous l'expliquez?
On est sur une croissance de chiffre d'affaires facturé au client de 5%.
Oui, mais au total, vous êtes moins 2%.
L'année dernière, on était à 5% de croissance de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, on reste sur une croissance de chiffre d'affaires facturé au client qui est sur la même tendance que l'année précédente.
Oui, mais si on regarde votre chiffre d'affaires, il est en légère baisse de 2%, je crois. Oui.
Edwige, vous connaissez assez bien le secteur pour savoir qu'il faut regarder chez les opérateurs le chiffre d'affaires facturé au client. Celui-là, il est en croissance de 5%.
Donc c'est ça qu'il faut regarder. Si on se projette sur le 2024, vous avez dit que vous maintenez vos objectifs. Et si on essaie de projeter un petit peu au-delà, sur les 5 prochaines années, est-ce que votre croissance, elle ne doit pas passer par l'international? ou pas, ou vous restez quand même, parce qu'on voit Free qui part à la conquête de la Pologne, enfin d'autres pays, de l'Italie évidemment. Est-ce que
notre vision des choses, c'est que Bouygues Télécom a réellement encore une bonne croissance à aller chercher sur le territoire national,
d'accord,
dans le domaine de la fibre et du fixe, oui, dans le domaine du B2B. Donc on a réellement encore du potentiel de croissance, on marque des points chaque année, donc on a une croissance sur le territoire national. Autre élément, on pense qu'il n'y a pas de synergie à aller mettre en place des opérateurs dans d'autres pays. Alors nos concurrents le font, mais attention, j'ai envie de dire, quand vous comparez Bouygues Télécom, il faut comparer le groupe Bouygues à d'autres groupes comme Orange ou comme Altice en termes de taille de groupe et de taille de groupe
international. Oui, mais parce que là, on parle de télécom. Donc, si vous voulez, si on parle Bouygues Construction, ça n'a rien à voir, ou TF1 n'a rien à voir avec vous. Voilà, c'est ça que
nos concurrents en France, oui, ne sont des groupes que télécom.
Oui.
Donc, quand ils veulent aller un peu répartir leurs risques en termes de pays, ils font des télécoms dans d'autres pays. Oui. Le groupe Bouygues est un groupe multimétier, donc il a une autre approche sur la partie internationale. En tout cas, en termes de télécom, il n'y a pas de synergie à aller dans un autre pays.
Il n'y a pas de volonté internationale.
Vous devez racheter des fréquences. Et on a, nous, de quoi faire une bonne croissance encore en France.
Oui, d'accord. Ce que j'ai compris, ce que vous disiez, Benoît Tantelin, c'est que le groupe Bouygues s'internationalise, mais il n'a pas ces objectifs-là pour les télécoms.
Pas pour les télécoms.
On a compris. Tiens, puisqu'on est ici, dans la maison, dans le même groupe, Altice, SFR, ça peut vous intéresser, à supposer qu'il y ait des morceaux à vendre, ou ça soit à vendre?
Alors, s'il y a des morceaux à vendre, SFR, comme vous dites, oui, on regardera, ce n'est pas le sujet.
Vous regarderez.
Ce n'est pas le sujet.
Non, mais vous regarderez, oui.
Et puis ensuite, il faut savoir ce que va donner et ce que dirait le droit de la concurrence. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la doctrine en termes de concurrence, au niveau européen ou français, fait qu'il n'y a pas d'hypothèse de scénario.
Non, mais elle est un peu en train de fléchir quand même.
De 4 opérateurs à 3 en France ou dans d'autres pays européens.
Oui, en Espagne, en Espagne.
Oui, si on peut dire.
Il y a une petite ouverture, pas complète,
d'accord. Petite ouverture, mais des remèdes, comme on dit, donc des mesures qui sont prises pour finalement reconstruire à côté un autre opérateur d'une manière très agressive. Donc, on peut économiser un tour, hein, plutôt que de passer de 4 à 3 et de refaire 4 derrière. Pour l'instant, il y a 4 opérateurs en France qui ont réussi, et nous, on a réussi à faire notre croissance et nos investissements. Et on a un droit de la concurrence qui, quand même, est aujourd'hui très réel sur le sujet.
Où est-ce que vous en êtes justement sur le rachat de La Poste Mobile? Pardon, excusez-moi.
Alors déjà, on est très heureux, très fiers d'avoir été choisi par La Poste pour ce rachat. Ça montre que notre...
C'est 2,3 millions de clients potentiels.
Un très beau succès réalisé par les équipes de La Poste Mobile et toutes les équipes de La Poste de toutes ces dernières années, il faut le dire. Nous, on est très fiers d'avoir été choisi. Ça montre la qualité, ça montre le projet industriel qu'on a proposé.
Et vous en êtes où, là?
Aujourd'hui, on a fait une première signature sous condition avec La Poste. Nos instances représentatives de personnel de part et d'autre ont donné un avis favorable, mais SFR a été saisi.
Oui, il y a 49% qui est détenu par SFR.
Et donc, il doit se prononcer à présent sur est-ce qu'il exercera son droit de préemption ou est-ce qu'il vendra ses titres.
Et qu'est-ce que vous allez en faire de La Poste Mobile ?
Ah ben écoutez, pour nous, c'est un vrai gros, grand projet. On va continuer les facteurs clés de succès qui ont été ceux de La Poste depuis des années, de La Poste Mobile.
Et c'est-à-dire
sur le mobile, sur le fixe. Ouais. Une très forte proximité. C'est un marketing très ciblé sur des types de clients très particuliers et une très forte proximité avec le réseau de La Poste. Donc réellement, c'est un très beau projet, un très beau succès et on va le poursuivre et l'amplifier.
On a vu qu'Orange a fourni un gros effort sur tout ce qui est l'IA générative et pour proposer justement. Où est-ce que vous en êtes là, du côté de Bouygues Télécom?
L'IA, on adore. Oui. Et on en fait depuis des années. Vous savez pourquoi? Parce que chez Bouygues Télécom, comme chez d'autres opérateurs, on a une mine pour l'IA. On a énormément de données, des data techniques, des data clients.
Et donc, nos data, c'est formidable. Les nôtres,
dans le plein respect des réglementations, évidemment. Et on a beaucoup d'interactions clients. Au téléphone, en boutique, sur le digital. Et donc cet ensemble-là est vraiment un terrain pour l'IA. On fait depuis des années des sujets d'IA pour aider nos conseillers à mieux répondre aux clients. Et là, on apporte maintenant cette technologie IA générative dans toute l'entreprise pour avoir
des
conseillers augmentés, comme on dit.
À tous vos clients, vous leur proposez ça? Alors, entreprise.
Alors, à nos conseillers, déjà, on aide nos conseillers à mieux répondre aux clients.
Oui.
Et puis, à nos clients, on est en train d'imaginer un certain nombre de services spécifiques qu'on pourrait proposer à base d'IA
générative. Et ça sera quand? Justement, c'était ça ma question.
Dans les mois à venir, je ne vais pas vous les voiler aujourd'hui, Edwige, vous me réinviterez.
Non, mais ça sera quoi? C'est 2024 ou 2025?
En 2024.
2024.
Ben à la fois pour le grand public, quelques éléments, et pour accompagner les entreprises vers de l'IA, on le fait déjà, pour les aider à mieux intégrer cet outil qui va effectivement révolutionner pas mal de métiers.
Merci beaucoup, Benoît Tortolin, le patron de Bouygues Télécom, donc qui maintient ses objectifs, et même qui compte bien les développer, qui compte sur La Poste Mobile. On a compris. Merci beaucoup.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, c'est parti pour les experts. Première partie jusqu'à 19h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous jusqu'à 20h. Et puis nos experts sont là. Jean-Baptiste Thuet est avec nous pour BFM Business. Jean-Baptiste, rebonsoir.
Rebonsoir.
Le journaliste économique Emmanuel Kessler est avec nous. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Bienvenue Edwige Chevrillon, bien sûr, reste avec nous. Rebonsoir Edwige.
Rebonsoir, bonsoir Audrey.
Mais bonsoir. Confirmer ce qu'on savait, ça reste très tendu dans le milieu des télécoms, là, sur les tarifs entre les opérateurs.
Ah oui.
C'est dur, là,
oui,
hein, quand même.
C'est très, très clair. Bah, du reste, Bouygues Télécom ont complètement revu leur offre commerciale. Free l'avait fait la même chose. Ouais. Donc on voit bien que c'est la concurrence. On pensait que la concurrence était un peu assoupie, si vous me permettez cette expression. Et en fait, pas du tout, d'abord, parce que la 5G ne me rapporte pas autant.
Oui.
Donc la tension sur les rendements est quand même très, très importante. Et on le voit bien avec ce que nous est Bouygues Télécom. Cela dit, qui a quand même des très bons chiffres le premier trimestre. Hein.
Oui, voilà, parce que c'est ce que j'allais vous dire.
J'ai inversé.
C'est ce qu'on m'a dit dans le couloir, voilà, qu'on lui a écorché son nom.
À plusieurs reprises. Oui.
Voilà, absolument. Oui.
Bon. Ça restera attendu tant qu'il y aura quatre opérateurs. Là aussi, vous avez posé la question, parce que c'est l'Arlésienne. On se demande si un jour il y aura consolidation dans le secteur des télécoms en France, finalement.
Ouais, ils disent peut-être. Alors, il y a un petit assouplissement quand même droit à la concurrence.
Oui.
On l'a vu. Au niveau européen, peut-être une prise de conscience. Qu'il fallait peut-être faire bouger les lignes. Et de ce point de vue-là, il peut se passer quelque chose. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que Bouygues Télécom, alors c'est pas fait, c'est le fait qu'ils reprennent la Poste Mobile. C'est quand même 2,3 millions de clients. Ça leur donne une grosse assise nationale, parce que vraiment, il l'a encore redit là, le patron de Bouygues Télécom, ils ont une stratégie qui n'est que national. Le groupe Bouygues, évidemment, est international pour toutes les autres activités. Mais pour ce qui est de la télévision et ce qui est en fait des télécoms, leur vision est nationale.
Eh bien, voilà pour Bouygues. Oui. Donc, enfin, en tout cas, une entreprise qui se porte bien, Emmanuel.
Non, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que disait Edwige, c'est que l'histoire de la 5G, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même phénomène que pour la 4G. C'est vrai que le passage de 3 à la 4G, c'était une vraie rupture technologique, un vrai saut qualitatif que les gens se sont appropriés. Puis, il y a un moment donné où, finalement, on satisfait le besoin et on ne peut pas toujours aller plus loin. Et donc, là, on a l'impression qu'on est sur un marché mature. La 5G, elle est très intéressante, je pense, pour des usages professionnels, y compris d'ailleurs dans l'audiovisuel. Voilà.
Non.
Mais ça n'a pas entraîné un accroissement de marché, outre les polémiques sur les antennes, mais qui existaient déjà avant. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'à un moment donné, la technologie devient mature et qu'on peut pas. C'est vrai qu'on est plutôt dans les nouvelles technologies, dans un système d'offres, c'est-à-dire que c'est l'offre qui crée la demande, jusqu'à un certain point. C'est intéressant à observer.
Voilà, en tout cas, pour l'interview du patron de Bouygues, Benoît Torlotin, donc, qui était avec nous tout à l'heure. On écorchera plus
absolument
désormais.
Voilà, on passe à la grande question du soir. Le patron de la SNCF a-t-il fait les frais de cet accord conclu récemment en interne, donc sur les fins de carrière? Jean-Pierre Farandou, en tout cas, cet officiel sera remplacé après les Jeux Olympiques, donc dans quelques mois. Il se trouve qu'il était auditionné tout à l'heure devant le Sénat et il l'a dit, cet accord n'a rien de scandaleux, au contraire, on l'écoute.
C'est un bon accord qui ne contourne pas la loi sur les retraites, qui est dans les pratiques des grandes entreprises publiques et privées. Son coût est raisonnable, avec de vrais bénéfices pour l'entreprise. Il ne coûtera rien, ni aux contribuables, ni aux clients, ni aux caisses de retraite. Il existait depuis 2008 et sa renégociation a été initiée à la demande des pouvoirs publics et conduite en responsabilité et en transparence. Je m'engage devant vous à compenser le coût, sans le répercuter bien sûr sur le prix des billets, et à préserver les marges de l'entreprise.
Voilà, Jean-Pierre Farandou tout à l'heure devant le Sénat. Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir
Guillaume.
Il l'a en travers de la gorge parce qu'il l'a bien défendu son accord là quand même. Hein.
Un mot sur la forme. Très curieuse audition. Rarement, j'en ai suivi des auditions au Sénat, et rarement j'ai vu un PDG se faire encenser.
Ah oui.
À ce point,
moi j'ai vu toute l'audition et je suis d'accord avec vous. C'était presque. S'ils avaient pu se lever pour faire une standing ovation,
ils l'ont applaudi à la fin.
C'est quand même rare.
C'est assez rare.
Est-ce qu'il y avait de quoi?
Il y a un bilan très positif.
Il s'est défendu bec et ongles.
Il a traversé
la crise du Covid. C'est déjà quand même quelque chose. Il fallait le faire. Trois exercices successifs dans le vert. 1,3 milliard de résultats nets, 2,3 milliards de cash flow dispo. Oui. Donc le résultat financier, le résultat.
Combien ça nous a coûté, Jean-Baptiste?
Alors l'État a repris déjà 35 milliards d'euros de dette.
Non, mais la dette, elle était avant lui. Voilà, la dette, elle était là avant lui. Il a augmenté le chiffre d'affaires de 20% en 5 ans.
Ce soir, vous arrivez à prendre le train, là, ce soir?
Non, mais alors, ce qu'il faut dire, Edwige.
Écoutez, on va arriver à prendre le train.
Il faut quand même voir les choses un peu objectivement. La SNCF transporte 15 millions de voyageurs par jour. C'est l'entreprise française la plus médiatisée, en unité de bruit médiatique, de très très loin devant toutes les autres. C'est-à-dire que chaque Français, d'abord, il se considère un peu comme propriétaire de la SNCF, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est une entreprise publique, mais chaque Français prend le train tous les jours, a toujours quelque chose à faire. Donc, et sur 15 millions de trains de voyageurs par jour, il y a toujours des problèmes, mais il y a plus de trains qui arrivent à l'heure, bien plus que de trains qui n'arrivent pas à l'heure.
On n'a pas eu une seule année sans grève depuis 60 ans.
Alors comment voulez-vous que l'actuel, et ce sera pareil sur le prochain patron de la SNCF, il aura autant de grèves qu'il en a. Il y en a plutôt eu moins, d'ailleurs, a expliqué Jean-Pierre Farandou, que sous son mandat, il y a eu une situation sociale qui a été plutôt plus favorable que les précédents.
Je rejoins Cédric Benel, parce que Jean-Pierre Farandou a aussi expliqué cet après-midi, en termes de stratégie d'entreprise, c'est quand même intéressant. Le ferroviaire, c'est du long terme. Il paye aujourd'hui des décisions qui ont été prises il y a 15 ans. Il a expliqué concrètement. Il s'est fait étriller récemment, Farandou. On lui a dit, mais vous avez enlevé 100 TGV. Il dit, oui, mais ces 100 TGV, c'est pas moi qui les ai enlevés. C'est Guillaume Pépi qui, pour des très bonnes raisons, à l'époque, il y a 15 ans à peu près. Et donc, ça se matérialise aujourd'hui. Mmh. Et c'est ça qui a bien fait comprendre Farandou, c'est que, voilà, c'est du long terme. Il est revenu sur le réseau. Le réseau ferré, aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga de la SNCF. C'est l'actif majeur de la SNCF, c'est le réseau. Et il explique, mais moi, le réseau, j'ai encore dans le nord de la France des rails qui ont 100 ans. Et le réseau, il vieillit chaque année.
Bien sûr, et ça coûte très cher, en effet.
Et donc, ça coûte une fortune. Voilà, donc,
mais qu'est-ce qu'il a fait, alors? Qu'a-t-il fait?
Il a traversé la crise Covid. Il a quand même réussi.
Plus personne dans les trains, donc ça va.
Ah, mais attendez, il fallait quand même.
La SNCF a joué un rôle sur le transport des malades.
Et puis, il a fait une chose incroyable. Parce que moi, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, et rien que pour ça, c'est incroyable. Il s'est quand même mis dans la poche Thierry Nière, le secrétaire général de la CGT Cheminots.
Oui, rien que ça. Non, mais donc, un dialogue social apaisé.
Non, c'est la CGT Cheminots. Oublions Sudrail. Oui, mais Sudrail n'est pas le syndicat représentatif.
On va écouter Sudrail dans un instant.
Mais il y a une contradiction terrible dans ce que vous dites. C'est que soit on se met d'accord avec les syndicats, alors c'est pas bien, c'est comme si on cédait aux syndicats, soit on s'oppose complètement aux syndicats et on a des situations de blocage et on fait aussi porter la responsabilité sur la direction. Donc à un moment donné, il faut choisir. Et la réalité de cet accord, puisque vous avez suivi comme moi l'intégralité de cette audition, c'est que ça coûte... 15 millions d'euros,
35 millions au total.
Il y a deux volets sur la partie contestée, sur la partie qui fait polémique.
Il y a deux volets, ça fait 35 milliards. Jean-Pierre Farandou dit, mais moi je peux le financer, j'ai 1 milliard 3 dans les
caisses. C'est 0,15% de la masse salariale. Et par ailleurs, ça c'est l'argument le plus fort, c'est que ça a été demandé par le gouvernement, par les pouvoirs publics, et ça il l'a bien dit. Et notamment, puisqu'on lui a demandé, mais qui? Il dit, voilà, Matignon était parfaitement au courant de ce qu'on faisait. Alors, non seulement ils étaient au courant, mais ils le demandaient parce que, à la sortie de la réforme sur les retraites,
ils ont... Est-ce que ça veut dire qu'on lui a tendu un piège?
Alors, il y a quand même plusieurs éléments qui ont joué en sa défaveur. Ouais. C'est vrai que depuis quelques années, enfin depuis quelques mois, on a ces polémiques récurrentes sur les prix des billets. On a des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Edwige, vous avez raison, c'est vrai.
Mais
il y a des petites choses comme ça qui jouent. Et il y a quand même aussi quelque chose.
C'est pas un cauchemar.
Vous avez aussi la limite d'âge. La limite d'âge est fixée à la SNCF à 68 ans. Jean-Pierre Farandou va avoir 67 ans. C'est effectivement, évidemment, un élément qui joue.
Mais reconnaissons aussi.
Mais c'est vrai aussi que cet accord sur les retraites qui a été signé très récemment, qui a été largement médiatisé, peut-être trop ébruité, en tout cas, a joué aussi, c'est vrai, en sa défaveur. C'est vrai qu'au château ou alors ailleurs, quand on a vu ça de loin, on a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est en train de remettre en cause tous les accords qui ont été faits. Et c'est vrai que ça a joué en termes de communication, ça a joué en sa défaveur.
C'est un prétexte parce que effectivement, il n'y a rien d'extraordinaire. Peut-être la communication a été mauvaise sur cet accord, mais il y a d'autres entreprises privées, genre Michelin ou d'autres qui ont fait ce type d'accord. Je pense que la limite d'âge est un problème. Le couperet est aussi tombé sur Augustin de Romanet, qui pour le coup, il était mon invité deux jours avant. Il ne s'y attendait absolument pas, sauf qu'il disait on n'est jamais à l'abri d'une manœuvre, etc., etc. Il ne s'y attendait pas du tout. Il espérait être un peu prolongé. Là, je pense que Jean-Pierre Farandou
Il voulait y retourner. Il voulait y retourner. Lui, il voulait y aller. Il n'y avait aucun doute.
Mais là aussi, il y avait
Il aurait été rattrapé par les étages.
Il fallait changer les
voilà, c'est ça.
Dans un an.
Oui, mais en fait, il aurait fallu simplement mettre en place une dérogation.
Et ça, de ce point de vue. Non, oui, changer les statuts. Et de ce point de vue-là, je pense que pour Emmanuel Macron, c'est rédhibitoire.
Mais d'ailleurs, les sénateurs.
C'est les grandes manœuvres des entreprises publiques.
Oui, oui. Non, mais les sénateurs, lorsqu'ils l'ont applaudi, ils lui ont aussi dit venez au Sénat, il n'y a pas de limite d'âge.
Absolument. Non, mais il y a effectivement, si c'est simplement la limite d'âge, il y a une cohérence. Et ça peut être un choix, et c'est vrai qu'on peut décider d'appliquer, de ne pas changer les statuts. Voilà. Ouais. Mais on a le sentiment qu'il y a eu quand même un double langage de la part du gouvernement qui a, d'un côté, poussé à cet accord de façon extrêmement claire et qui, de l'autre, aujourd'hui, pour des raisons politiques, le dénonce et profite justement de ce moment pour faire porter le chapeau à Jean-Pierre Farandou.
Et notamment
un double langage de Bruno Le Maire, qui s'est fait étrier.
Oui.
Il y a un sénateur qui a dit, mais Bruno Le Maire, ça fait 15 ans qu'il est là, il devrait être ailleurs, c'est absolument incroyable. Et vous, Jean-Pierre Farandou, vous n'êtes pas reconduit. C'est vrai que Bruno Le Maire, ces derniers jours, a dit, Jean-Pierre Farandou, vous allez venir dans mon bureau. Et Bruno Le Maire, il y a une petite heure, était auditionné devant l'Assemblée nationale. Que dit Bruno Le Maire ? Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit la semaine dernière. Il s'en expliquera en parlant de Jean-Pierre Farandou dans mon bureau. Mais ça n'enlève rien à la qualité de son travail. C'est une question de limite d'âge. Le gouvernement est reconnaissant. Ne mélangeons pas.
Jean-Baptiste, non, mais c'est pour ça que je vous pose la question suivante. Quel pourrait être l'intérêt de Bruno Le Maire ? Aurait-il un poulain à placer ?
Mais il y en a beaucoup à passer.
Ben oui.
Vous avez Elisabeth Borne, vous avez Marguerite Bérard, vous
Jean
avez
Castex.
Jean Castex. Il y en a beaucoup.
Christophe Fanichet, qui est à la CNCF. Alain Krakowicz, vous avez.
Voilà. Ça a commencé, là, la petite valse des prétendants. Le mercato dans les entreprises publiques, ça a vraiment commencé. Bon,
écoutez, et là, je ne pense pas que c'est Bruno Le Maire qui va choisir. Je pense que c'est Emmanuel Macron, quand même.
C'est Emmanuel Macron.
C'est une petite victoire pour Bruno Le Maire, quelque part médiatique. Écoute, il n'a pas tout perdu, Jean-Pierre Farandou. Il s'est mis dans la poche, vous parliez de la CGT tout à l'heure. Sudrail, écoutez, Fabien Villedieu pour Sudrail, qui était il y a quelques instants chez nos confrères de BFM TV. Écoutez.
Les Français qui étaient dans la rue avec les cheminots en 2023, et on s'est battu, on a fait notre part pour se battre justement contre cette mauvaise réforme. Une fois que la mauvaise réforme est passée, il y a eu des négociations, comme plein d'entreprises, justement, pour voir un accord de fin de carrière. Je le dis, je le répète, cet accord de fin de carrière n'a pas du tout été fait en loose day. Caché du gouvernement, ils étaient bien au courant.
Monsieur Villedieu, ce qu'on veut comprendre, c'est est-ce que
c'est difficile de finir une phrase.
Oui, mais parce qu'on va pas revenir sur les termes de cet accord, mais c'est plus ses conséquences qui nous intéressent ce soir. Jean-Pierre Farandou donc s'en va. Sans cet accord, il n'y aurait pas eu de Jeux Olympiques.
Sans cet accord, moi je vous le dis très concrètement, les JO, j'en sais rien, mais par contre les grands départs de ce week-end là, il y en a qui partent ce week-end. Sans cet accord, il y avait pas de train.
D'accord.
Mais clairement. Donc d'un côté, on nous dit faut pas faire grève, faut négocier. Bon, on fait pas grève, on négocie, ça va pas quand même. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive à la SNCF, quand on fait grève, on gueule parce qu'on fait grève. Quand on trouve un accord pour pas faire grève, on gueule parce qu'on a trouvé un accord pour pas faire grève et on va jusqu'à virer le patron de la SNCF. Alors Sudrail, notre
faut faire grève pour garder Farandou.
Alors, on n'ira pas jusque là, mais moi je vais vous dire.
Non mais c'est intéressant, on voit que Sudrail regrette déjà Farandou.
Moi je vous le dis comme je le pense. C'est pas l'ADN de Sudrail de défendre les patrons. Il y a pas de souci là-dessus. Par contre, ça c'est complètement injuste ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a
subi une injustice.
Évidemment, ils sont au courant de tout. Ils avaient validé tout, mais ils voient que c'est impopulaire, donc qu'est-ce qu'ils font ? Hop, ils se débarrassent du patron.
Et voilà. Bon, donc une grève éventuelle pour que Jean-Pierre Farandou reste, ça vous semble jouable ?
Sait-on jamais. Non, mais non. Il faut reconnaître. Et d'ailleurs, dans son audition cet après-midi, il a fait largement transparaître sa fibre sociale, parce que Jean-Pierre Farandou,
il a toujours eu.
Il y a une fibre sociale. Il nous a dit comment voulez-vous que je gère une entreprise comme la SNCF avec 150 000 personnes si j'ai pas avec moi des syndicats ? C'est impossible. Oui. Je peux pas passer ma vie sur des groupes WhatsApp à parler à des gens que je ne connais pas. Donc l'importance des syndicats au sein de la SNCF, bien sûr, elle est pour défendre les travailleurs, etc. Mais pour lui, elle est vitale pour pouvoir gérer correctement l'entreprise, ce soit Sudrail ou que ce soit la CGT, qui est le syndicat représentatif.
Il y a une chose intéressante qu'on a bien vue dans l'audition de Jean-Pierre Farandou, c'est que c'est vraiment l'homme du train. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière à la la SNCF. C'est vraiment un cheminot. Donc, c'était intéressant d'avoir un patron qui venait de l'entreprise. Je dis pas que dans ses prédécesseurs, il n'y a pas eu des gens brillants qui s'y sont mis. Louis Gallois était passionné par le train. Guillaume Pépi s'y est mis. Voilà, ils ont été absorbés. Mais là, on risque... Enfin, on risque. En tout cas, la situation va revenir un petit peu à ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui vient de l'entreprise, probablement, on va avoir un techno parachuté de l'extérieur. Voilà, je dis pas qu'il fera pas le job et qu'il se mettra pas dans, mais c'était intéressant.
Non, mais c'est sûr que le message autour de l'ascenseur social, en tout cas, a été très inspirant.
Exactement. Et donc ça, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Après, je pense qu'il faut être sensible à cet argument de la limite d'âge. D'ailleurs, les sénateurs ont critiqué la teneur du communiqué, du communiqué qui a été publié ce matin par le gouvernement.
C'est la manière.
Mais en réalité, j'ai regardé, j'ai comparé, c'est exactement ligne à ligne près, sauf le nom qui a changé, le même communiqué qui a été publié pour la sortie d'Augustin de Romanet. C'est-à-dire, merci, au revoir, vous partirez après les Jeux Olympiques. Oui. Voilà.
Mais, donc, il ne faut pas se formaliser, en tout cas.
Le contenu du communiqué n'est pas condamnable. En revanche, c'est vrai que dans la période, on a le sentiment quand même que Farandou va payer pour une décision qui, encore une fois, n'a pas du tout pris au piège le gouvernement, puisqu'il était parfaitement au courant.
Il est plus vieux, Augustin de Romanet.
Oui. Bref, il y a du monde à placer. Faut le comprendre.
Voilà, beaucoup de monde à placer.
Ah oui, comme toujours. Ça va être intéressant. Il va y avoir un balai dans les entreprises publiques. Et attention qu'on va voir monter en puissance les femmes. Oui. Surveiller le parcours de Marlène Dolvec, qui est la patronne de Gare et Connexion, qui a été très bien classée dans le fameux classement des patrons du public que publie tous les deux ans Vincent de la Vessière pour V comme V, que vous avez reçu, je crois. Ouais. Qui pourrait jouer un rôle dans les mois.
Et puis aussi, Catherine Guiouard qui est revenue dans les circuits. Donc à voir.
Ça y est, elle est revenue, Catherine Guiouard. D'accord.
Bon. Voilà, à suivre.
À suivre. C'est Jinping.
Oui, alors ça, c'est l'autre sujet de la journée. C'est la fin du voyage officiel en France du président chinois. Ça s'est terminé par un déjeuner en altitude à 1800 mètres dans les Hautes-Pyrénées. Déjeuner au grand air pour tenter de trouver quelques points de consensus, notamment sur les sujets commerciaux.
Bon, vous n'avez pas chaud apparemment. Vous êtes 2 degrés en altitude. Bon, alors les Chinois,
tempête
quand même.
Tempête de neige.
Les Chinois ont quand même fait quelques concessions puisqu'ils ont accepté d'ouvrir un peu plus leur marché aux produits agricoles, la volaille, le porc, les vins haussés. Mais d'autres sujets comme la viande bovine, le cognac, non, ça n'a pas vraiment avancé. On aurait bien voulu vous faire écouter Emmanuel Macron, mais il n'a pas parlé aujourd'hui. Personne n'a parlé. Alors globalement, qu'est-ce que vous retenez de ce...
Enfin, on ne peut pas dire, Edwige, que ça n'a mené à rien. Sur la filière porcine, en l'occurrence.
Ok.
Mais ça va quand même changer beaucoup.
On ne peut pas venir le président chinois, Xi Jinping, pour la filière porcine, même si c'est très important.
Et pourtant, elle en a besoin.
Oui, non, et sur le cognac, il n'a pas annoncé qu'il n'y aurait pas de mesures...
Mais pour l'instant, rien de véritablement...
Il n'y a rien de...
Les Chinois ont envie de boire du cognac, donc ça ne va peut-être pas aller trop loin.
Bavresse, nous on a envie d'en vendre, ça tombe bien. De diplomatie à ce niveau-là, tout à l'heure.
Ah bah oui, tout à fait, les rapports de force. Comment établir des rapports de... Non, mais surtout, la stratégie, l'économie de guerre dans laquelle s'est mise la Chine depuis 12 ans, enfin, en tout cas, c'est ce qu'explique David Bavreuil. Nous, on s'y met juste, et c'est Emmanuel Macron qui a reparlé de ça, c'était il y a un an, maintenant. Économie de guerre dans la défense, mais eux, ils se préparent depuis 12 ans. Et donc maintenant, en fait, ils nous ont complètement... on est complètement dépendant d'eux, même si on essaye de relocaliser, etc. Mais on le voit bien sur le... Ce que Xi Jinping a dit, avec une certaine ironie, la stratégie bas carbone, vous n'en aurez pas si la Chine ne vous donne pas les éoliennes et les panneaux solaires, surtout le photovoltaïque.
On a besoin de la Chine, mais la Chine a besoin de nous aussi.
Je rebondis avec ce que vous sur le photovoltaïque. J'y pense parce que c'est passion audition, effectivement. On avait il y a quelques jours l'audition de Patrick Pouyanné devant l'Assemblée nationale, et puis les députés demandent, mais Patrick Pouyanné, pourquoi vous repartez pas un petit peu dans les panneaux solaires quand même, allez-y, repartez. Et Pouyanné leur dit, mais vous foutez de ma gueule. Enfin, pardon, il a pas dit comme ça tout à fait, mais c'était quand même la même chose.
C'était
pas loin quand même. Et il a rappelé que lorsque Patrick Pouyanné, Total Énergie à l'époque, avait investi dans une usine de panneaux solaires, il était allé frapper à la porte de la Commission européenne, demandant, mais protégez-moi un tout petit peu parce que là, je suis submergé par des panneaux solaires. Rien n'a été fait. Même chose, c'est Jean-Dominique Senard, cette fois-ci pour l'automobile, qui rappelait ça sur les pneus.
Renault,
on a eu un déferlement ahurissant, un tsunami de pneus chinois sur...
Maintenant, c'est les voitures électriques.
Et maintenant, sur les voitures
électriques.
Pourquoi les choses changeraient
C'est
Vous voyez
Et on a pensé à un moment que finalement en Europe on faisait des produits de meilleure qualité, donc que ça allait résister parce que les Chinois faisaient des choses qui étaient plutôt bas de gamme. Or c'est plus vrai du tout. Donc
c'est vrai sur certains produits.
Sur certains.
Et puis
mais sur l'automobile, c'est pas certain aujourd'hui. Ça comme il y a des gens qui achètent des voitures chinoises, ils sont très contents parce qu'ils payent.
C'est vrai. Mais ceci dit, pour répondre à la question de Jean-Baptiste, pourquoi les choses changeraient, il me semble quand même qu'il y a un espèce de réveil européen. C'est la première fois qu'on lance une commission d'enquête pour étudier les pratiques déloyales de dumping sur les subventions publiques. Non, mais on est au début de cette histoire-là. On commence à parler d'augmenter les droits de douane, de mettre en place des clauses miroirs.
C'est quoi, dans 3 ans, 4 ans, le temps que tout le monde se mette d'accord ?
Alors, tout ça arrive sûrement trop tard et ça va prendre beaucoup trop de temps. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, c'est la première fois qu'on voit ce sursaut européen, non ? Emmanuel ?
Tant mieux. Je pense qu'il faut effectivement... Alors, moi, par nature, je suis plutôt contre le protectionnisme parce que je pense que ça se retourne toujours contre... voilà, à un moment donné, on a aussi besoin de déboucher. Mais il faut aussi éviter la naïveté qui a été longtemps où on a eu du mal à comprendre à quel point la Chine avait décollé. Donc, voilà. Et on a le sentiment qu'au-delà de l'exercice de communication, la France n'a pas vraiment montré ses muscles pendant cette visite.
Pas forcément de la naïveté, c'est quand même la politique économique qui a construit l'Union européenne autour du consommateur, pour dire qu'il fallait, on s'en souvient, de Margaret Vestager, qui est revenue depuis, elle disait c'est la défense du consommateur. Ça rejoint la problématique des télécoms. C'est-à-dire qu'il faut d'abord privilégier le consommateur, donc un par regroupement. Mais en réalité, c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, Emmanuel Kessler, finalement, il n'y a pas tellement de géants du télécom à part Orange au niveau mondial. C'est un tout petit peu en train de changer. Enfin, le temps que ça rentre dans les têtes des uns et des autres.
Et puis, il y a ce rapport de force. Si David Bavrez le disait très très bien, voilà, les Chinois respectent les forts. Et à ce petit jeu-là, Ursula von der Leyen a un discours fort, tranché, beaucoup moins qu'Emmanuel Macron. Donc il s'est retrouvé aujourd'hui face à un Emmanuel Macron complètement diminué et sans...
Oui, mais en même temps, on a un Emmanuel Macron et une France qui, beaucoup plus que l'Allemagne, plus que le Japon, même plus que les États-Unis, est dépendante de la commande publique chinoise sur les trains, sur les avions, sur les centrales nucléaires. Donc évidemment, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce discours extrêmement fort pour Emmanuel Macron.
Il faut juste... Je voudrais répondre juste à Guillaume, c'est en fait cette virée... Donc à la Mongie, enfin au coin du Tourmalet, chez le restaurant, chez un ami d'Emmanuel Macron, c'est une région où on sait qu'il adore, c'est là où était enterré son grand-père, etc. Ça fait réponse à la cérémonie du thé, à laquelle avait eu droit Emmanuel Macron. Xi Jinping l'avait emmené à Canton, où son père a été gouverneur, et donc il avait eu le même moment un petit peu intime, voilà.
Ouais, et tout ça, avec, en tout cas publiquement, mais Emmanuel Macron l'avait dit, on dit rien sur les questions de droits de l'homme qui touchent la Chine. En principe, elles sont évoquées en privé.
L'Élysée dit qu'ils en ont parlé un petit peu.
Un petit peu, voilà, en privé. Mais enfin, ça a l'air bien timide et surtout, ça ne va absolument rien changer. Voilà, ça ne va pas changer grand-chose pour les Ouïghours.
Non.
Et donc, oui, on a un sentiment. Bah, c'est la réelle politique, mais on a un petit sentiment de malaise de ce point de vue.
Quand même, juste à propos de géopolitique, Xi Jinping, il y a une phrase que j'ai trouvée très dure. J'aimerais bien que quelqu'un nous la décrypte, c'est qu'il a dit qu'il ne fallait pas, à propos d'Ukraine, qu'il ne fallait pas salir la Russie, le nom de la Chine.
Oui.
Je trouve que c'est une expression quand même assez forte.
Bon.
Eh oui, évidemment. Alors, ceci dit, la Chine a annoncé qu'elle ne participerait pas au forum organisé par la Suisse au mois de juin, au forum sur la paix, puisqu'évidemment, la Russie s'est empressée de dire qu'elle n'y ira pas, et la Chine lui a emboîté le pas. Bon. Donc, on voit bien, en tout cas, que les discussions sont assez limitées.
Une visite pour rien, on va dire. Bon, il y a eu quelques contrats, quand même, ici ou là, pour Suez.
Cinq accords signés.
Voilà, tout est pour tout, rien de fondamental. Bien.
Oui, mais bon, à suivre. Hein. Mais il y aura peut-être d'autres choses qui vont tomber.
On va espérer. Bien, 18h57, c'est terminé en tout cas pour cette première partie. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci. À très vite. Emmanuel Kessler revient pour sa pénitence dans un quart d'heure jusqu'à 20h.
Edwige, c'est pas une pénitence, c'est un plaisir.
Vous prenez le train.
Vous allez voir Edwige, il sera à l'heure.
Les paris sont lancés.
Grâce à l'accord sur les fins de carrière, vous aurez un train ce soir.
Vous nous écrirez un petit mot.
On va voir comment ça se passe ce week-end. Il y aura beaucoup de mouvements dans les trains.
Exactement.
18h58.
Et bien, nous, on est en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.